VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
D'accord, bienvenue à notre journal. Au Sénégal, les électeurs se rendent dimanche aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin test en vue de la présidentielle de 2019 avec comme tête de liste de l'opposition au chef de l'État Macky Sall, son prédécesseur à la magistrature suprême Abdoulaye Wade et le maire de Dakar Khalifa Sall en détention préventive. La campagne électorale, émaillée de violences qui ont fait de nombreux blessés dans un pays réputé pour sa tradition démocratique, s'achève ce vendredi soir. Plus de 6 200 000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche de 8h à 18h, temps universel, pour départager un nombre record de listes, 47 contre 24 listes en 2012. Les premiers résultats du scrutin à retour sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Au Mali, le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia a enregistré mercredi de lourdes pertes dans les violences près de Kidal, dans le nord-est du pays. Les détails avec Eric Manirakiza.
Ces affrontements ont opposé la coordination des mouvements de la Zawad, CMA, ex-rébellion à dominant Touareg, aux groupes armés pro-gouvernementaux, la Gatia. La CMA a affirmé avoir démantelé toutes les positions de la plateforme qui se formait autour de Kidal, soupçonnant les groupes pro-gouvernementaux de vouloir encercler cette ville sous son contrôle. Et reconnaît deux pertes dans ses rangs et plusieurs blessés, tandis qu'elle revendique 50 morts et 39 prisonniers du côté Gatia. Un de ses responsables, qui a gardé l'anonymat, n'a pas fourni de bilan et n'a pas nié des pertes. La mission de l'ONU a perdu mercredi deux casques bleus allemands dans un accident d'hélicoptère pendant l'observation des combats. La Gatia et la CMA sont signataires de l'accord de paix mai-juin 2015, mais ces groupes armés ne facilitent pas l'installation de l'administration malienne à Kidal.
En Côte d'Ivoire, 5 militaires ont été radiés de l'armée après l'attaque perpétrée contre l'école de police d'Abidjan. À la mi-juillet, 3 autres soldats avaient subi le même sort après des troubles dans 2 camps militaires à Abidjan et Korogo. Depuis le début de l'année, le pays a été secoué par plusieurs mutineries. Est-ce que la manière forte de la radiation va aider à résoudre le malaise au sein de l'armée ivoirienne? Pour une réponse, Idriss Fall a joint à Abidjan Fernand Julien Gauze de l'association Agir pour la démocratie.
Il est de tradition que l'armée soit considérée comme la grande muette. Elle est régie par des règles et des disciplines parfois très très strictes. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ce n'a pas été le cas ces dernières années. L'on en a vu les conséquences. Donc peut-être que cette formule choc pourrait être celle que le gouvernement expérimente pour faire autre chose que payer de l'argent. Maintenant, il faut voir ce que ça donne concrètement. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce que c'est trop tôt, trop plus tard? Je n'en sais rien.
Mais il y a des soldats qui sont mutinés et ont reçu 12 millions et d'autres, ils sont radiés. Cela ne vous semble pas deux poids et deux mesures?
D'abord, ceux qui se sont mutinés et qui ont reçu de l'argent, ils ont porté un coup de façon groupée, collégiale, massive, et ils ont immobilisé toute la nation. Ils ont pris le coup tout le monde. Donc peut-être que le gouvernement s'est trouvé pris le couteau sous la gorge et donc il a réagi de la meilleure façon qu'il a trouvé à ce moment-là. Mais avec aujourd'hui des reculs, peut-être que le contexte a changé. Et de toutes les façons, les dernières actions qui ont été faites n'ayant pas abouti, n'ayant pas entraîné les conséquences que leurs auteurs espéraient, donc le gouvernement s'est trouvé peut-être plus fort, plus à l'aise pour frapper. Mais ce que je peux dire, c'est que la formule du bâton qui est utilisée aujourd'hui contre la formule de la carotte qui avait été utilisée la première fois sont deux mesures qui sont opposées, dont les conséquences ne sont pas forcément les mêmes.
Dans un contexte où tout le monde a les yeux braqués sur 2020 et tout le monde pense à l'après Ouattara.
Tout le monde en a ras-le-bol, faut le dire haut et fort, ras-le-bol de toute cette instabilité, ras-le-bol de toutes ces situations où l'on ne sait plus très bien où va la Côte d'Ivoire, ras-le-bol de tous ces mouvements qui montrent une gestion pas toujours réussie des questions sécuritaires, des questions de cohésion sociale, des questions de réconciliation nationale, des questions de remise en ordre de l'armée, ce qu'on appelle la réforme du secteur sécurité. Je crois que tout cela montre bien que le pays ait à mille lieues d'être celui qu'on espérait retrouver, la mise en place des institutions, on nous avait promis à travers la nouvelle constitution qui a été votée en 2016, une plus grande stabilité, une plus grande modernité, plus de démocratie, moins de heurts, moins de chaos. Mais malheureusement, ça semble être totalement l'inverse qui s'oppose. Même déjà dès la première semaine de la première année de la Troisième République, dès janvier donc, déjà tout cela a été mis à bracadabra et donc on se rend compte que le pays n'est pas encore sorti de l'auberge, pas du tout.
Fernand Julien Gauze de l'association Agir pour la démocratie en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, le gouvernement renforce les mesures de restriction des mouvements des journalistes étrangers. JED, Journalistes en danger, une organisation de défense de la presse, dénonce la décision et accuse les autorités congolaises de vouloir empêcher ces journalistes de faire leur travail, Edith Sango.
Le ministre de la Communication, Lambert Mende, rappelle dans un arrêté que des lieux stratégiques sont interdits des couvertures médiatiques. Les casernes militaires, installations de communication et ambassades ne peuvent être couverts que sur autorisation expresse des responsables de ces lieux. Il restreint aussi les déplacements des médias étrangers en dehors de la capitale ou d'une province à une autre. Pour ce faire, il faut une autorisation préalable. Pour JED, les gouvernements tentent de censurer les journalistes étrangers et restreindre leur liberté de mouvement pour les contrôler et les empêcher de faire leur travail. Pour le gouvernement de Kinshasa, c'est plutôt pour leur offrir des meilleures garanties de sécurité. Deux experts onusiens ont été tués en mars dans les Kasaï, théâtre des violences entre les forces de sécurité et une milice locale. L'ONU a trouvé dans la zone une centaine de charniers.
Au Zimbabwe, la première dame Grace Mugabe a révélé hier qu'elle encourageait son mari, le président Robert Mugabe, âgé de 93 ans et à la tête du pays depuis 1980, à désigner un dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. Plus de détails avec Anastasie Toudiech.
Grace Mugabe, 52 ans, a déclaré « Je me fâche avec lui, je lui dis toujours, tu as un rôle, tu dois dire qui va prendre ta place quand tu partiras ». La première dame, qui fait partie des favoris pour succéder à son époux, ajoute que la succession de Mugabe ne pourra se faire sans son engagement. Il a son mot à dire en tant que citoyen du pays. Le pays est très divisé sur l'identité du successeur de Robert Mugabe, qui n'a jamais pris position officiellement sur le sujet. Mais son vice-président Emmerson Mnangagwa est régulièrement cité. La question n'est pas encore d'actualité puisque Robert Mugabe, le plus vieux président en exercice de la planète, a décidé de se représenter aux élections de 2018.
Actualité américaine maintenant, les républicains minés par leurs dissensions internes ont à nouveau échoué ce vendredi à abroger l'Obamacare, la couverture santé de l'ex-président Barack Obama, adoptée en 2010, qui est leur cheval de bataille politique depuis maintenant 7 ans. Un sérieux revers donc pour le président Donald Trump. Lors d'un vote en pleine nuit, le Sénat a rejeté très tôt aujourd'hui par 51 voix contre 49 une abrogation partielle de l'Obamacare. Et puis on reste aux États-Unis, la présence des transgenres au sein des forces armées américaines fait débat. Mais en dépit des tweets du président Donald Trump annonçant leur bannissement du secteur militaire, le plus haut gradé de l'armée américaine affirme que pour l'heure, rien n'a changé. Morgan Guiriec.
Le général Joe Dunford, chef d'état-major interarmes, a envoyé un mémo à ses subordonnés pour leur demander de ne rien changer en attendant que le président Trump informe formellement le Pentagone et que le ministre de la Défense, Jim Mattis, publie de nouvelles directives. En attendant, nous allons continuer à traiter tous nos personnels avec respect, écrit le général des Marines. En raison des combats que nous menons et des défis auxquels nous devons faire face, nous allons rester concentrés sur l'accomplissement des missions qui nous ont été assignées, souligne le général, laissant entendre qu'il perçoit les tweets présidentiels comme une diversion. Les transgenres sont des personnes qui ne s'identifient pas à leur sexe de naissance.
Hillary Clinton, l'adversaire du président Donald Trump aux récentes présidentielles américaines, va publier le 12 septembre les mémoires de sa défaite à la présidentielle. Les mémoires qui s'intituleront « Ce qui est arrivé », a annoncé jeudi son éditeur. Revenant sur son échec, Hillary Clinton évoquera le sexisme subi en tant que première femme candidate d'un grand parti américain et aussi une attaque sans précédent sur notre démocratie par un adversaire étranger, selon les documents publiés par la maison d'édition Simon & Schuster. Et pour terminer, le Cameroun a commencé ce vendredi à observer 2 jours de deuil national à la mémoire des victimes du naufrage d'un navire de l'armée le 16 juillet, dont le dernier bilan est de 11 morts et de 23 disparus. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.